Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas comment dire, c'est pas un parallélisme, mais c'est un mouvement qui va ensemble quand on regarde cette quête des artistes, n'importe si c'est les surréalistes, mais qui notamment sont très imprégnés par la découverte de Sade et tout ce qui se passe au niveau de l'histoire, de la politique, je veux dire, cette sortie justement des forces les plus ténébreuses possibles qui sont déjà à l'œuvre et qui vont se mettre de plus en plus à l'œuvre. Moi, j'ai toujours trouvé ça absolument incroyable, parce que c'était pas seulement une réaction. Évidemment, on dit beaucoup que, et c'est évident aussi, que tout ce qui est l'art moderne qui dépasse ce qu'il y a eu avant, part beaucoup de la destruction qui est devenue visible lors de la Première Guerre mondiale. Le dadaïsme, le surréalisme sont très en rapport avec ça. Je veux dire, on ne pouvait plus faire la même chose après cela. Non. Et là, il y a une évidence, mais en même temps, tout ce qui cumule après dans les années, dans la Deuxième Guerre mondiale et les suites après, je veux dire, c'est presque effrayant et en même temps, c'est fabuleux dans quel sens il y a une mouvance là, qui met déjà tout en dans la lumière, qui montre les forces qui sont à l'œuvre.
Oui.
Comment vous voyez cela? Et comment d'ailleurs aussi Toyan a vu cela ou a perçu ça? Parce qu'elle pensait en image, d'accord, mais bon, elle a réagi très directement aussi à son époque, à ce qui se passait. Quand on regarde ces images sur la guerre, etc., toutes ces séries-là. C'est...
Je pense que, justement, par cet approfondissement qui est de part et d'autre, aussi parce qu'il y a ces personnes-là, moi, après que j'ai rencontré aussi bien Toyen, Breton, etc., il y a ce désir de penser l'homme tout entier, ce qui est maintenant de plus en plus rare. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... C'est tout, c'est-à-dire c'est à la fois de penser l'homme dans l'univers, le penser dans son rapport au monde, et aussi... aussi éviter tout ce qui est simplification et de savoir que nous sommes faits aussi, si nous sommes faits comme nous sommes faits de nos rêves, mais que ces rêves aussi charrient aussi toute une nuit et que cette nuit, à un moment dont Breton parle de ce qui est à l'origine du désir, il parle de l'infracassable noyau de nuit, donc qui est une formule extraordinaire, mais c'est de ça aussi, c'est-à-dire que les uns et les autres, et Toyen plus que d'autres, a très bien senti qu'il y a chez chacun de nous, qu'il y a ces forces noires et qu'on est en rapport avec ces forces noires. Donc il y a tout un aspect visionnaire chez elle, qui va, alors que les autres, la plupart, s'en remettent aux recettes idéologiques qui permettent de se fabriquer des œillères suivant les besoins. Elle est sans œillères, mais il y a cette sorte de... À la fois, sa liberté lui permet de voir le monde et qu'est-ce qui s'agite dans les profondeurs, et de ce fait qu'il y a quelque chose de profond, de très, très visionnaire. Donc elle va percevoir, d'ailleurs, avant les autres, quand on voit ces dessins qui annoncent les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est des choses, à mon avis, beaucoup plus fortes après de ce qui a été produit par la façon par les différents artistes qui ont réagi, parce que tout d'un coup elle mesure l'ampleur de la dévastation et ce qu'il y a de bouleversant, c'est qu'elle le fait à travers un monde d'innocence, c'est-à-dire par exemple avec des jouets détruits. Donc on voit aussi que plus rien ne reste devant cette force de dévastation, ou des animaux, dont il ne reste que les squelettes ou les choses enflammées, enfin les carcasses enflammées. Donc c'est aussi ceux qui n'étaient pour rien vont être complètement pris dans ce mouvement de dévastation du monde. Et là, je pense qu'elle est allée très très loin dans ça. Mais toujours au nom aussi, elle évoque d'une certaine façon... Sa révolte est toujours à la mesure de son sens du merveilleux, c'est-à-dire que peut-être son sens du merveilleux est tellement grand qu'elle mesure l'horreur, la profondeur de l'horreur, vous voyez, c'est ça.
Mais j'ai l'impression qu'elle ne juge pas. Elle montre tout, elle regarde tout, c'est sans limite, je dirais. C'est comment dire, il n'y a pas de. Elle ne laisse rien de côté.
Mais j'ai pas l'impression
qu'elle ait un regard qui juge. Hein. Vous voyez ce que je veux dire?
Je comprends, c'est-à-dire qu'elle a un regard qui est sans limite, justement. Mm. C'est-à-dire qui ne se conforte pas des présupposés idéologiques. Mm. Ça, c'est sûr, et c'est sa liberté. Mm. Et c'est aussi ce qui fait la grandeur de sa vision, si je puis dire. Mais d'un autre côté, elle a une force de rupture extraordinaire. C'est-à-dire, parce que le mot juger est un peu ambigu.
Oui, bien sûr.
Bon, mais par exemple, pendant la guerre, là, pendant cette période de la guerre, elle va cacher tout le temps de la guerre Heinrich Eisler, qui est un jeune poète juif, qu'elle va cacher dans sa salle de bain. Donc elle risque tout.
Elle est très décidée.
Elle est décidée, il y a une détermination incroyable. Ouais. Et elle prend tous les risques, là, et ils vivent quelque chose. On y reste 5 ans, là, comme ça, complètement. Ouais.
C'est très impressionnant parce qu'ils ont vraiment vécu dans un espace extrêmement réduit.
Oui, et elle, quand il y avait les bombardements, elle descendait à la cave et lui restait en haut. Mm. Et après, il y a eu des rafles et ça s'est arrêté. Ils étaient, je crois, au 5e étage, ça s'est arrêté au 4e. Hein. C'est des choses incroyables.
C'était vraiment, je veux dire, c'était être à l'affût. Mm.
Ce qu'il y a justement aussi, pour moi, de bouleversant, c'est que quand ils sont en train de vivre ça, ils font quelque chose qui s'appelle, à eux deux, qui s'appelle Les Casemates du Sommeil. C'est un livre de photos qui s'appelle Des poèmes réalisés. C'est-à-dire, Heinrich Eisler a fait des poèmes avec des petites lettres découpées. Toyen a fait des paysages, des tout petits paysages miniatures. Mm. Et après, ils ont mis le texte dans les paysages miniatures. Il y a quelques photos là. Mm. Et ça donne un objet absolument merveilleux. Mm. Et de voir que, au milieu de l'horreur, ces deux êtres-là, qui sont complètement traqués, si on peut dire, sont aussi capables pour s'opposer à l'horreur du monde, sont capables aussi de miser sur le merveilleux.
Ça montre un espace de liberté absolument incroyable, je trouve. Oui. Pas seulement supporter et subir, ce qui a été beaucoup le cas.
Et ça correspond aussi au moment où Eisler, qui était donc à l'origine poète, commence à faire des photographies. Et il va inventer ce qu'on appelle les photographismes, qui, à travers des négatifs, avec une aiguille ou avec de la colle, va commencer à faire naître des formes. Et ça va être des paysages incroyables. Et on sent très bien à la fois l'horreur, mais on sent très bien que quelque chose d'autre passe. Et il y a tout un étoyen beaucoup participé à ça. Donc c'est aussi, on peut mesurer comment c'est entre les deux pôles qui tout se joue là. Et jamais on ne lâche un pôle au détriment de l'autre.
C'est une forme de résistance qui est absolument éblouissante parce qu'on a l'impression qu'ils étaient capables de créer un espace, je veux dire, n'importe l'endroit réduit dans lequel ils vivaient, qui était immense. Je trouve que c'est absolument remarquable.
Oui, oui. Oui, oui.